Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Vendredi 17 février, bonne journée. Bienvenue au 98.5, un matin où il y a de la neige mêlée de grésil. Cette recette devrait prendre fin au cours de l'après-midi. C'est une accumulation d'autour 5 cm avec des vents peut-être plus importants ce matin jusqu'à 60 km/h. Ça va devenir plus léger au cours de l'après-midi. Donc le maximum aujourd'hui, moins 3. En soirée, c'est un dégagement et on aura un minimum de moins 15 durant la nuit. Demain, samedi, soleil tôt le matin et aussi jusqu'en début d'après-midi, après quoi il y aura quelques nuages et faible risque de flocons de neige tard en après-midi demain avec un maximum autour de moins 1 degré. Et puis dimanche, on prévoit du temps nuageux. C'est au-dessus de zéro, donc plus 4 degrés. Alors, on vous le disait ce matin et Marc insiste avec raison, là, c'est une conduite ajustée qui est nécessaire parce que vous avez cette espèce d'accumulation de neige, il y a eu de la pluie verglaçante, grésil, alors un peu tout ça, ce qui rend la chaussée, disons, glissante. Et c'est important de s'ajuster. Tu conduis pas ce matin comme tu conduis. Je sais que ça peut avoir l'air con à dire, là, mais quand même, il faut souvent le répéter. D'abord, vous dire que Pierre-Nie Saint-Amand retourne en cours aujourd'hui. C'est très attendu, c'est le chauffeur d'autobus qui a foncé, en fait on l'accuse, a foncé sur la garderie. Ça fait deux morts et plusieurs blessés chez les enfants. Il y a eu des funérailles hier d'un des enfants, puis il y a des funérailles également aujourd'hui. J'espère que les médias vont continuer à se tenir loin des funérailles. Moi, c'est toujours été quelque chose qui créait un grand malaise. Je pense pas qu'on ait affaire là et qu'on doit laisser les familles le plus tranquilles possible dans les circonstances. Mais bon, alors, comparution, je le sais que vous avez tous en tête la même question. Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qu'on sait sur lui depuis maintenant une semaine? À vrai dire, peu de choses. On sait qu'il a été transporté d'abord pour des fins d'évaluation psychiatrique. Donc, à l'hôpital, il y avait des blessures légères également. On l'a envoyé à l'infirmerie de Bordeaux, était placé en isolement. Parce que c'est clair qu'il est en danger à l'intérieur. On peut lire un peu ce matin à gauche et à droite que le gars serait encore désorganisé. Je pense qu'il faut attendre et ne pas tirer de conclusion sur son état mental et sur le type de défense qui sera présenté. Qu'est-ce qu'on a comme preuve? Qu'est-ce qu'on a comme fait? Et c'est le procès qui va nous permettre de le découvrir. Jusqu'à maintenant, là, on ne peut que spéculer. Je vous disais hier matin que c'est les propos d'un ami proche qui dit que c'était un couple parfait, il allait se marier, puis il semblait pas vivre de la détresse. On ne sait jamais ce que les gens vivent profondément, même si on est des amis. Alors, c'est à surveiller aujourd'hui la comparution devant le tribunal du chauffeur d'autobus. Puisqu'on parle de Laval, je vais recevoir le maire de Laval ce matin parce que la ville réclame 9 millions à Gilles Vaillancourt. Pourquoi? Parce qu'on a découvert des magouilles additionnelles. La commission Charbonneau et l'enquête de l'UPAC avaient permis de mettre le projecteur sur des pratiques avec des entrepreneurs en construction. Mais on découvre que non seulement M. Vaillancourt avait son réseau corrompu pour les contrats, mais en fait de construction par exemple, mais c'est aussi des cas de vente de terrain, des opérations de déneigement, des contrats de déneigement, puis des services professionnels d'architectes. Et même la ville réclame 1,5 million aux héritiers d'un promoteur immobilier, Borsellino, qui est donc aujourd'hui décédé. Et c'est une histoire de terrain que Borsellino aurait eu pour pas cher. En échange, il aurait entre autres fourni un terrain pas cher à un quart de la ville. Et tout ça dans la foulée du financement occulte. Quand vous prenez ça avec le recul, c'est spectaculaire de voir que Gilles Vaillancourt a pu diriger, orchestrer un système de corruption à tous les niveaux, impliquant des notables, des avocats. Radio-Canada a dit, entre autres, ce matin, que Pierre Lambert, qui cachait l'argent du financement politique, serait également poursuivi. Et il aurait, lui, contrôlé des comptes bancaires pour 5 500 000 $ en Suisse. Bon, et on sait que Vaillancourt, officiellement, n'a plus rien. Là, il reste Caudeau qui appartient à sa femme. Et que dans l'entente qui avait été conclue à l'époque, ben si on découvrait d'autres sommes cachées, ben ça venait complètement défaire l'entente qui avait été conclue avec lui. Donc, le maire sera avec nous tantôt pour parler de ça. La presse maintenant nous parle, et on le savait, là, que les procureurs, en raison des délais, doivent maintenant faire des choix. On est à l'heure des choix dans le système de justice. On connaît tous la saga entre le ministre Jolin Barrette et la juge Rondeau, juge en chef, qui dit maintenant les juges siègent une journée sur deux. Vous allez nommer une quarantaine de juges. Sinon, ben, ce sont des retards qui s'accumulent, des causes qui ne sont pas traitées devant le tribunal. Et le ministre dit, il n'y a pas question. Puis là, il y a des efforts de conciliation, de médiation. Mais là, le DPCP confirme qu'il faut prioriser certains dossiers. Et tout ça pour éviter que des poursuites pour des crimes graves se retrouvent avec l'arrêt Jordan, donc complètement dans le champ. Alors, ça veut dire quoi? Ben, on comprend qu'on va prioriser les crimes contre la personne, donc des cas de meurtre, évidemment, de blessures graves, des infractions à caractère sexuel, de la maltraitance envers les enfants, violence conjugale. Ce qui veut dire qu'on devra, malheureusement, sans doute, laisser tomber des crimes économiques, des petits cas, des gros cas pour vous, la victime, mais des petits cas aux yeux de la justice. C'est quand même assez spécial. Là. Puis on parle pas d'un cas ou deux, là. On parle évidemment de devoir tasser des dossiers, par exemple, de stupéfiants, une bagarre, tu sais, des trucs qui sont des voies de fait simples. Et on va donc malheureusement mettre ça de côté. Ça concerne pas directement le ministre fédéral, mais le ministre David Lametti sera avec nous ce matin. Lui propose d'ailleurs une réforme, probablement pour ce qui est des remises en liberté. Puis on sait qu'il y a toute la controverse sur les cas d'agression sexuelle là, qui fait en sorte qu'il y a des gens qui sont condamnés à des peines à purger dans la communauté. Pour ce qui est des écoles, on savait déjà qu'au centre de service scolaire Val-des-Serres, la plupart des établissements sont fermés. S'ajoute également le centre de service scolaire des Grandes Seigneuries et le centre de la Vallée des Tisserands. Alors tout ça, c'est sur la rive sud de Montréal. Aide médicale à mourir, donc dépôt hier du projet de loi. Qui fait en sorte qu'on puisse élargir l'accès à l'aide médicale à mourir. Donc, pas strictement pour les gens dont les cas sont connus, là, de cancer, des gens qui ont des maladies graves, incurables, mais on introduit aussi la notion de handicap neuromoteur. Je pense que ça mérite des précisions. La ministre sera avec nous tantôt, là. Mais, Mme Bélanger, parce que ça veut dire quoi, c'est exactement un handicap neuromoteur? Puis quels sont les critères? Ça, c'est la première question qu'on peut se poser. Je comprends que les gens qui, par exemple, souffrent d'Alzheimer ou reçoivent un diagnostic d'Alzheimer vont pouvoir prendre leur décision alors qu'ils sont en pleine connaissance de cause. Et on se souvient tous du cas de Sandra de Montigny. Donc, est-ce que ça veut dire que si j'ai un diagnostic d'Alzheimer, je pourrais déjà indiquer ma volonté pour mes derniers moments? Et l'autre aspect qui est assez controversé, c'est que les maisons de soins palliatifs seront obligées d'offrir l'aide médicale à mourir. Ça, c'est pour éviter, parce qu'on a eu des cas là, de gens qui étaient en maison de soins palliatifs, puis ils demandaient l'aide médicale à mourir, puis on leur disait non, puis il fallait les transporter vers l'hôpital pour obtenir l'aide médicale à mourir, ce qui n'a aucun sens. Mais là, il y a des gens qui veulent pas, qui disent que ça devient une question de choix, peut-être. Mais l'essentiel de ce débat, c'est d'abord, un, faut que ça se fasse dans le respect puis dans le calme. L'objectif, c'est quoi? Comment voulons-nous terminer notre vie? L'aide médicale à mourir est une option. il y a d'autres options qui existent. Pas toujours proposées, parfois difficiles à obtenir. Les soins palliatifs, par exemple, il y a des soins autres aussi qui peuvent mener à des fins de vie. Et ce qui est important, là, c'est qu'au-delà des grands projets de loi, c'est l'accès. Puis rappelez-vous, on a eu ce cas cette semaine d'un homme qui souffrait le martyr, qui a dû faire deux tentatives de suicide avant que finalement on lui accorde l'aide médicale à mourir. Donc on va vous en reparler tantôt. Dossier environnement dans la presse. Il semble que Québec envisage de faire des coupes dans des secteurs protégés, sur la Côte-Nord, par exemple, et aussi en Gaspésie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc des forêts où on trouve la présence de caribous. Et tout ça pour permettre à l'industrie forestière d'aller chercher des volumes de bois additionnels. On sait que le fédéral, dirait tort le coup pas mal du gouvernement du Québec là-dessus, sur la protection des caribous. Le ministre Guilbeault en fait une affaire personnelle. Mais là, on pourrait donc sortir la scie mécanique et accorder à l'industrie du bois additionnel. Je ne sais pas si vous suivez l'affaire dans cette petite communauté de l'Ohio. C'est un train, ça fait deux semaines que c'est arrivé. Là, il y a un train qui a déraillé, bourré de produits chimiques, notamment du chlorure de vinyle. Et il y a eu incendie, donc des émanations, puis il y a d'autres produits. C'est une cinquantaine de wagons impliqués. Et pour des raisons de sécurité, on a également permis, pour éviter des explosions, là, on a comme ouvert certains wagons pour permettre à ce chlorure de se répandre dans l'atmosphère. Et là, les gens sont anxieux, ils sont inquiets. Les autorités disent qu'ils font des tests, par exemple dans des maisons. Il n'y a rien au-dessus des normes, si on veut, mais c'est quand même préoccupant. Et plusieurs consomment de l'eau en bouteille. Il y a des poissons morts qui ont été retrouvés. Je sais qu'il y a eu des questions aussi pour ce qui est du Canada, parce que c'est en Ohio, c'est pas très loin. Les autorités canadiennes disent qu'ils sont pas vraiment inquiètes. Compte tenu des vents, puis compte tenu que certains produits disparaissent après 24 heures. Mais c'est clair que c'est quand même là, puis on a eu nos dégâts écologiques ici, là, on peut penser à Saint-Basile-le-Grand, on peut penser à Saint-Amable avec les pneus à l'époque. Alors, disons qu'il y a un bon niveau d'inquiétude. Et puis, on apprenait hier, c'était dans l'air, là, mais ça se confirme, que Montréal souhaite interdire toute nouvelle cuisinière ou foyer qui fonctionne au gaz naturel. Pour des raisons, d'abord, de santé, on a, semble-t-il, des liens maintenant prouvés entre l'asthme et l'utilisation de ces cuisinières, et aussi pour des raisons, je dirais, de se débarrasser d'énergie fossile. Vous comprendrez qu'il y a des gens qui sont pas ben contents. Là, on parle pas d'enlever votre cuisinière au gaz, si vous en avez une, là, on parle des nouvelles constructions. Puis vous avez des restaurateurs qui trouvent pas ça comique, qui disent, voyons donc, c'est parce que dans un restaurant, ça nous prend ce type d'instrument de travail. Énergir pense qu'on va un peu vite en affaires. Mais il y a déjà la ville de New York qui l'a fait. Et ça a créé tout un débat. Donc, la ville de Montréal qui est pas mal dans cette direction. Rapidement, je vais vous parler aussi de Québécois tantôt, TVA. On a annoncé hier que 240 postes étaient abolis et on va recevoir Pierre-Carl Péladeau tantôt. Essentiellement, il dit que la multiplication des plateformes, des compétiteurs, puis là, il y a des joueurs comme Amazon, Netflix, Disney, ben ça vient comme gruger le temps que les gens ont pour la consommation de télé. Parle de concurrence déloyale de Radio-Canada. Attaque Bell qui ne donne pas à Québécois sa juste valeur. Et, dit-il, on n'a pas le choix. Quand il parle de Radio-Canada, ben, reproche à Radio-Canada de jouer la compétition en termes de produits alors qu'ils sont subventionnés puis que c'est pas dans le mandat. On pourrait aussi poser des questions sur des investissements. Puis on sait pas encore comment ces coupures vont se faire, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des fermetures, des, je sais pas moi, TVA Sport, paraît que c'est pas payant, que ça perd de l'argent chaque année, alors ce que ça aussi, c'est en cause. On pourra poser les questions tantôt. Je vous parlais de la liste d'attente. Aaron Derfeld, dans The Gazette ce matin, est allé voir un peu, et c'est en augmentation de 40% en termes de nombre de patients par rapport à la situation qui prévalait avant la pandémie. Je vous donne quelques chiffres. Pour ce qui est des chirurgies, des gens là, qui attendent, là, c'est mineur officiellement, mais ça touche la qualité de vie, ben, on découvre finalement qu'il y a actuellement 162 000 personnes qui sont en attente. Et quand vous regardez les délais, non seulement il y a plus de monde, mais évidemment, vous attendez plus longtemps. Et pour les gens qui sont sur la liste depuis plus de 6 mois, c'est en augmentation, autour de 34 %. Puis il y a même un certain nombre de cas de cancer. Pour vous donner un chiffre précis, là, 749 patients qui attendent une chirurgie de cancer et ils sont à l'extérieur de la période médicalement acceptable. C'est pas loin de 800 personnes au Québec là, qui ont un cancer puis qui sont pas encore malheureusement opérées. Et Jean-François Lépine sera avec nous. On va parler évidemment de l'affaire des ballons chinois. Mais je finis avec ça. Le Globe and Mail, qui a eu des documents du Service canadien de renseignement et de sécurité, nous apprend qu'il y avait une stratégie chinoise pour influencer le résultat des élections fédérales de 2021. Essentiellement, 3 éléments. D'abord, les Chinois voulaient la réélection de Justin Trudeau. Et comment ils ont fait ça? Ben, du financement, des contacts, des campagnes de désinformation, des prises, en fait une présence auprès de certains élus, et surtout des campagnes assez agressives émanant de ressortissants chinois au Canada, avec comme cible de nuire aux conservateurs. La Chine considère que le Parti conservateur est moins amical que les libéraux de Justin Trudeau. Ce qui fait qu'on a fait donc des dons, on fait du financement politique, et tout ça pour soutenir des candidats qu'on considérait pro-chinois. Alors c'est dans le Globe and Mail de ce matin.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Québec a présenté hier un projet de loi pour élargir les critères d'admissibilité à l'aide médicale à mourir. Il y avait déjà eu un premier projet de loi qui était mort au feuilleton. Et là, on a cette nouvelle mouture. La ministre responsable est avec nous, déléguée à la santé et aux aînés, Sonia Bélanger. Madame Bélanger, bonjour.
Bonjour.
Juste peut-être pour bien expliquer aux gens les changements proposés pour que ça soit très clair. D'abord, quand vous dites que les gens qui souffrent, par exemple, d'Alzheimer vont pouvoir faire un choix anticipé, clairement, qu'est-ce que ça veut dire, là?
Bon, ici, on parle du premier changement majeur du projet de loi que j'ai déposé hier. Et la demande anticipée, c'est, en fait, être en mesure de faire une demande d'aide médicale à mourir aujourd'hui, au moment où j'ai pleine connaissance, au moment où j'ai toutes mes capacités cognitives. Faire un choix aujourd'hui pour une situation qui va arriver éventuellement.
Ça veut dire après un diagnostic.
Après un diagnostic. Prenons l'exemple de la maladie d'Alzheimer. C'est le plus facile à illustrer. Donc, supposons qu'un jeune adulte, 50 ans, a un diagnostic aujourd'hui de maladie d'Alzheimer et que cette personne-là a vu son père, sa mère, par exemple, mourir de la maladie d'Alzheimer. Alors, cette personne pourrait, dans son cheminement, dire, ben moi, je veux pas vivre dans cette situation-là.
Le jour où je serai rendu. Le cas très connu, c'est Sandra de Montigny, là.
Tout à fait. J'ai eu l'occasion, d'ailleurs, de discuter à quelques reprises.
Ça veut dire qu'elle, avec un projet de loi comme ça adopté, pourrait faire cette démarche-là.
Tout à fait. Et Mme de Montigny milite dans ce sens-là. J'ai eu l'occasion, j'ai lu son livre, mais j'ai eu l'occasion de discuter avec elle. Et elle s'est prononcée, d'ailleurs, hier. Je pense qu'elle est très satisfaite de ça.
OK. Est-ce que ça veut dire qu'il faut établir à quel moment de la maladie je voudrais avoir l'aide médicale à mourir?
Il faut préciser, dans le fond, dans la démarche personnelle, la personne va être accompagnée. D'abord, par un tiers de confiance, pour y revenir tantôt, c'est quelqu'un en qui elle a confiance. Ça peut être un proche, une amie. OK. Et après, naturellement, avec l'équipe soignante. Et elle devra définir, dans le fond, à quel moment. Donc, sa volonté, là, quand elle va exprimer sa volonté, elle va devoir définir à quel moment. Par exemple, un moment où je serai, où je ne reconnaîtrai plus les gens. Ça pourrait être un critère. Fait que tout est basé dans le processus sur la volonté de la personne.
OK. Vous parlez aussi de handicap moteur.
Oui.
Ça veut dire quoi, ça?
Mais la notion d'handicap neuromoteur, c'est une notion qui est assez difficile à expliquer, mais je vais vous donner un exemple ce matin pour que les auditeurs comprennent bien. Supposons une personne prisonnière de son corps, quadriplégique,
okay,
avec des problèmes de santé, des problèmes digestifs, respiratoires. Mais en plus, cette personne, elle est dans un déclin avancé et irréversible de sa maladie. Ces deux mots-là sont très importants. Déclin avancé et irréversible de toutes ses capacités. Et en plus, elle vit des souffrances physiques, psychiques, intolérables, insupportables et non apaisantes.
OK, mais ça, que je comprenne, mais ça veut dire que quelqu'un qui serait quadriplégique, mais sans problème de santé majeur, pourrait pas demander l'aide médicale à mourir.
Mais en fait, chaque cas est unique. Chaque cas va devoir être évalué. Il y a des critères de base. Là, je viens d'en énumérer quelques-uns.
Mais il faut que ce soit irréversible.
Il faut que ça soit irréversible.
Puis il faut que la souffrance soit irréversible.
Mais il faut. Mais en fait, tout ça, ça s'additionne. Là. Ok, c'est pas. Donc, oui, il faut que le déclin soit avancé premièrement. Et il faut l'irréversibilité ici est un critère vraiment qui est incontournable. Donc, il faut que l'irréversibilité soit là. On peut comprendre, là, on a comme un devoir de prudence quand on exerce là, un soin comme l'aide médicale à mourir. Donc, il faut que la situation soit irréversible. Le déclin est très avancé, mais la personne aussi est souffrante. Elle le manifeste, elle le ressent. Puis elle a des souffrances physiques, psychiques qui, selon ce qu'elle vit, sont insupportables, sont jugés insupportables. Puis l'autre chose qui est très importante de mentionner, il faut vraiment que ça vienne de la volonté de la personne. C'est pas les professionnels qui vont initier le processus, c'est la personne.
Mais c'est supposé être ça dans tous les cas. Il faut que ça soit une question de volonté.
Tout à fait, c'est une question de volonté, mais c'est pour ça que je ramène, c'est les critères de base. Donc quand on parle d'handicap neuromoteur, oui, handicap neuromoteur, avec tout ce que ça signifie, là, je ne vais pas rentrer dans les termes scientifiques, mais je vous le dis, imaginez une personne quadriplégique avec de multiples atteintes, diverses atteintes, mais qui répond
parce
à
d'autres. Pour que ce soit encore plus clair pour les gens, là, parce que il s'agit pas que quelqu'un qui dit « je suis paralysé dans un fauteuil roulant, je veux l'indical à mourir parce que je suis tanné d'être dans un fauteuil roulant ».
Non, pas tout, non,
ça
tout
passerait
à fait.
Pas, ça.
Non, tout à fait. C'est pas ça. L'idée de l'aide médicale à
quelqu'un qui
a
une sclérose en plaques, qui est en fauteuil roulant, mais qui est pas, qui fonctionne, qui a pas d'autres problèmes.
Non, on n'est pas là-dedans. Okay. L'aide médicale à mourir, M. Arcand, c'est un soin de dernier recours. C'est le dernier recours. Alors, la personne qui est inconfortable dans son fauteuil roulant, prenons cet exemple-là, bien, il devrait avoir toute une mobilisation là, de l'équipe des professionnels, des médecins, pour rendre confortable. Et aujourd'hui, on le sait là, qu'on fait des choses extraordinaires au niveau de la réadaptation.
La santé mentale, c'est pas inclus. Je parlais avec des gens qui connaissent bien le dossier, mourir dans la dignité, qui disent, quand on parle de santé mentale, là, peu de cas seraient éligibles. Je parle pas de quelqu'un qui a une dépression. Là. Pourquoi vous voulez pas aller et le permettre pour des gens là, qui, depuis des années, où on a tout essayé, puis ça donne pas de résultat?
Monsieur Arcand, il y a personne qui a été capable de me convaincre. Il n'y a pas de consensus au Québec sur le volet du trouble mental. Il n'y a pas de consensus. Parmi les médecins, d'abord. Et cette question, elle est tellement délicate et importante qu'on doit faire des discussions appropriées. Fait que ça ne veut pas dire qu'on le met pas, on l'a pas mis dans le projet de loi, puis on veut pas le mettre, c'est vraiment pas notre intention. Là. Il n'est pas là, d'ailleurs. Il n'y a pas de consensus. Et je pense qu'il y aura un dialogue à faire, puis il y aura des discussions à faire, puis prendre le temps nécessaire. Puis regardez ce qui se passe au fédéral. Ils ont repoussé. La mise en application pour le volet du trouble mental devait être le 17 mars. Ils ont repoussé en 2024. Alors, le fédéral non plus n'est pas rendu là.
Vous êtes rendu où? Sur cette question-là?
Moi, je n'ai pas été convaincue. Il n'y a personne qui m'a convaincue, M. Arcand. Quand j'ai posé la question, est-ce que, par exemple, quelqu'un qui est schizophrène, est-ce qu'on peut s'assurer du caractère de l'irréversibilité? Parce que ça, c'est un critère important. Tantôt, je parlais de déclin, là, irréversible. Puis, il n'y a personne qui a été capable de me dire qu'à 100%, c'était irréversible. Fait que et c'est délicat, puis je ne veux pas porter moi-même cette lourde responsabilité sur mes épaules. Je suis prête à aller au maximum dans ma responsabilité de ministre, mais il faut vraiment être convaincu. Je n'ai pas senti que la discussion était terminée à ce niveau-là.
Mais vous voulez la faire, la discussion, c'est ce que je comprends.
Je veux la faire, mais pas dans le cadre du projet de loi.
Mais
oui, tout à fait. Et j'ai donc aussi discuté avec différents groupes, là, différents experts. Puis je veux qu'on la fasse avec les usagers aussi.
Je vous donne un autre exemple qui, justement, fait partie des recommandations fédérales, qui est de dire pour des mineurs matures, là, c'est très large, bon, oui. Et très rare aussi. Là, je parlais hier avec le docteur L'Espérant. Prenons le cas d'un ado, 16 ans, cancer, irréversible. Est-ce que vous pourriez aller vers ça ou ça aussi parce que c'est un mineur, c'est non?
Actuellement, dans la loi, il faut être majeur.
Mm-hmm.
Et apte à consentir. Donc, le critère d'être majeur, on le maintient. Donc on ne va pas dans
vous
ce sens-là. On va pas là. Puis je voudrais quand même dire que les soins palliatifs pédiatriques, c'est quelque chose d'extrêmement sensible, qui demande une approche particulière. Je fais confiance, moi, au Québec, là, à nos pédiatres, à nos équipes interdisciplinaires qui se mobilisent auprès d'enfants qui ont des cancers ou d'autres maladies extrêmement importantes. Puis c'est une approche qui doit être complètement différente. On m'a déjà dit, vous savez, Mme Bélanger, les enfants, ce sont pas des adultes en miniature. Il faut une approche complètement différente.
Mais est-ce qu'on ne va pas se retrouver, parce que c'est déjà arrivé, où le fédéral le permet, mettons, puis le Québec ne l'a pas, puis moi, je suis un citoyen québécois, mais canadien, on va être mêlé un peu dans les aides médicales à mourir, là.
Mais en fait, c'est un pas important qu'on franchit là, avec le dépôt du projet de loi. On vient s'harmoniser avec le Code criminel canadien, pas à 100%. Parce que l'exemple du trouble mental, on le met pas. Et ils sont pas prêts, eux non plus. Là,
mais s'ils le font, ça veut dire qu'au fédéral, ça serait permis éventuellement, mais pas au Québec.
Mais on verra. Parce que là, ils repoussent ça en 2024. Mmh. Les discussions sont pas en cours. À ma connaissance, il n'y a pas de comité structuré encore de former à ce niveau-là. Et un projet de loi, ça serait haut.
OK. Parce que le temps file, là, mais là, on parle de l'aide médicale à mourir.
Oui.
Il y a d'autres formes de soins qui existent. Les soins palliatifs, vous venez d'en parler.
Tout à fait.
Je pense que ce qui s'est passé avec Mme Simard, donc la veuve de Robert Bourassa, qui a eu des moments de souffrance parce qu'on ne pouvait pas lui donner les soins, parce que c'était pas un cas de soins palliatifs au départ, puis que sur l'étage où elle était, ça prenait une surveillance, puis il manquait de personnel, il n'y a pas. C'est pas normal que des gens meurent dans ces conditions-là. Qu'est-ce que vous prévoyez faire avec ça?
Bien, vous avez tout à fait raison. Les soins palliatifs au Québec, là, c'est important. On doit rendre accessibles les soins palliatifs avec des équipes formées. D'ailleurs, dans la situation de Mme Simard, je me suis mêlée de ce dossier-là. Vous pouvez comprendre là, que j'ai rapidement rencontré les personnes impliquées là, au niveau de St. Mary's, mais j'ai surtout discuté avec le Collège des médecins et l'Ordre des infirmières du Québec.
Mais il y a plein de cas. Mme Simard, c'est un cas, mais je peux vous en sortir plusieurs où c'est arrivé dans les mêmes conditions.
Je suis à la même place que vous, M. Arcan. Nous devons améliorer notre accessibilité aux soins palliatifs, notamment dans les hôpitaux où les unités de soins palliatifs n'ont pas été vraiment réévaluées depuis des années. Donc, on a encore le même nombre de lits dans les hôpitaux qui ont des unités de soins palliatifs, parce qu'en plus, c'est même pas tous les hôpitaux qui ont des unités de soins palliatifs. Certains ont des lits éparpillés ici et là. Donc, il y a un programme national de soins palliatifs au Québec. Là, je suis en train de le ressortir. Il y a eu du travail de fait là-dessus. Là. On va s'assurer de mettre ça en application. Chose certaine, il faut qu'on revienne avec la formation pour le personnel. Les médecins y compris. Le Collège des médecins est à la même place que moi à ce sujet-là, l'Ordre des infirmières. Puis il faut surtout qu'on augmente les services à l'hôpital, en maison de soins palliatifs, mais je vous dirais aussi en soutien à domicile.
Oui, ça c'est sûr. Il y en a qui veulent évidemment terminer. Les maisons de soins palliatifs, là elles n'auront pas le choix. Elles vont offrir l'aide médicale à mourir et vont s'arranger pour que le service se donne. là, on avait des patients qui quittaient la maison pour retourner à l'hôpital pour avoir l'aide médicale à mourir. C'est ça qui se passe actuellement?
Exact. Monsieur Arcan, il y a des personnes qui sont refusées dans certaines maisons de soins palliatifs parce qu'ils veulent recevoir l'aide médicale à mourir. Pour moi, c'est inadmissible. On l'a mis dans le projet de loi. Je dois quand même mentionner que la grande majorité des maisons de soins palliatifs offrent l'aide médicale à mourir. C'est comme la grande
majorité.
Les
maisons qui ne le feront pas, qu'est-ce qui va se passer avec...
Mais c'est une loi. Alors, on va travailler avec ces maisons-là pour s'assurer qu'elles offrent le soin. L'aide médicale à mourir, c'est un soin. Au même titre que le soulagement de la douleur, que la sédation palliative continue. L'aide médicale à mourir, ça fait partie de l'offre de soins, dans le respect de la volonté puis de la dignité des personnes.
Merci d'être venue ce matin. Merci. Sonia Bélanger, la ministre déléguée à la Santé. On vient de parler de l'aide médicale à mourir et je vous dis aussi ce matin qu'on commence à faire des choix au DPCP. C'est la presse qui rapporte que compte tenu des tensions entre les juges au Québec et le ministre Jolin Barrette et la décision de la juge en chef de la Cour, Mme Rondeau, de faire en sorte que les juges siègent une journée sur deux, ben là, on a décidé qu'il faut prioriser les dossiers. Donc, les crimes graves, les crimes, par exemple, meurtre, voies de fait graves, violence conjugale, crimes de nature sexuelle seront priorisés, puis d'autres dossiers ben seront écartés. Tout ça, évidemment, dans le contexte de l'arrêt Jordan. Troisième volet ce matin, puis on en a beaucoup parlé cette semaine, ce sont des sentences réduites qui sont maintenant disponibles pour des agresseurs sexuels, des peines entre autres, qui sont purgées dans la communauté ou à la maison. Et tout ça découle évidemment de la loi C-5 qui a été adoptée au Parlement fédéral. Le ministre de la Justice est avec nous ce matin au fédéral, David Lametti. Monsieur Lametti, bonjour.
Bonjour.
Vous avez sans doute vu un certain nombre de cas où des gens coupables d'agressions sexuelles sur des femmes ne purgent pas de prison et on regarde l'option maintenant de les envoyer à la maison. Est-ce que c'est ça que vous souhaitez?
Ben, d'abord, je ne vais pas me prononcer sur les cas actuels. Ce serait très inapproprié. Dans un cas, il y a un potentiel pour l'appel. Dans un autre cas, ce n'est même pas décidé encore. On est à l'étape des plaidoiries pour les peines. Donc, pour une procureure générale, de dire quoi que ce soit là-dessus sera très inapproprié.
Mais sur le principe?
Ce qu'on a fait avec ces cinq, c'est de redonner une marge de manœuvre aux juges qui existaient avant, depuis les années 90. Et c'était pour justement réduire de s'attaquer au problème de racisme systémique dans le système et pour redonner la flexibilité au moment de la peine. Les crimes graves méritent des conséquences graves selon les faits et nous avons donné aussi, on n'a pas changé effectivement la possibilité pour un juge de donner le maximum selon la preuve devant lui. Donc, les crimes graves méritent les conséquences graves. Et d'une autre manière, je dirais aussi que nous avons fait plus que n'importe quel gouvernement dans l'histoire canadienne pour soutenir les victimes d'agressions sexuelles avec plusieurs projets de loi et avec des programmes qui aide les victimes à naviguer le système de justice et pour les soutenir.
Mais, OK, monsieur Lametti, je suis pas certain de vous comprendre, là, dans la mesure suivante. Quelqu'un qui commet une agression sexuelle à répétition, est-ce qu'il devrait pas purger une sentence minimale en prison?
On n'a rien touché des sentences minimales. Ça n'existait pas dans l'espèce. Je suis toujours ouvert à regarder.
Je parle d'aller en prison. Là. Les juges, maintenant, peuvent décider ce qu'ils ne pouvaient pas avant, là, de dire ben, un agresseur sexuel va aller à la maison.
C'est quelque chose... Il y a encore une détermination de culpabilité et la peine est déterminée par le juge après avoir entendu les plaidoiries des deux côtés et voir ce qui se passe. L'intention de la loi était toujours que les crimes graves méritent les sentences graves, les peines graves, les peines et méritent des conséquences graves. Nous avons dans notre système une certaine discrétion pour les juges pour évaluer les faits devant eux. C'est un atout de notre système, je crois. Et donc, je vais évidemment surveiller la mise en œuvre du projet de loi C5, mais je peux vous dire que le but de C5 était de attaquer l'engorgement dans le système et le racisme systémique.
Non, mais excusez-moi, là, le racisme systémique dans le système. Un agresseur sexuel, c'est pas une question de savoir s'il est blanc, noir, autochtone. C'est quelqu'un qui commet un crime grave. Le Bloc québécois propose...
Si c'est un crime grave, ça va... ça va mériter des conséquences graves. Ça, c'était toujours notre intention.
Mais M. Lametti, vous tournez, je m'excuse, là, autour du pot. Il y a le député du Bloc québécois qui propose un projet de loi permettant de revenir aux peines minimales pour les cas d'agression sexuelle et des cas commis avec des crimes commis avec des armes à feu. Vous êtes pour ou contre ça?
Ben, je vais regarder le projet. Ça a été annoncé hier. Je peux vous dire, M. Arcand, on n'a pas touché les peines minimales pour les agressions sexuelles. Donc, on n'a rien touché là-dessus. On a redonné la possibilité d'avoir des ordonnances sur sursis. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'était à travers le code criminel. Donc, c'était pas, on n'avait pas ciblé certaines offenses. C'était juste de redonner la discrétion au juge qui a été enlevée par le gouvernement Harper et qui n'a pas fonctionné, qui a contribué à l'engorgement du système. On parle de l'arrêt Jordan. C'était l'un des facteurs les plus importants justement pour augmenter les engorgements dans le système de justice.
Bon, ben justement, là, je comprends que c'est pas dans votre juridiction directement, mais quand vous voyez qu'au Québec, on est en train de faire des tris dans les dossiers, puis qu'on va laisser tomber des dossiers parce que on manque de juges, qu'il y a un conflit. Quel est votre commentaire sur la situation de la gestion de la justice au Québec?
Ben, je peux pas faire des commentaires sur la gestion de la Cour de Québec. Ça tombe à mon homologue, Maître Jolin Barrette. Et donc, c'est quelque chose qui doit régler. Ce que je peux vous dire, je fais mon mieux et j'espère d'avoir des bonnes nouvelles sous peu, de nommer les juges pour la Cour supérieure qui est ma juridiction. Et puis, je cherche tout le temps des ressources pour l'aide juridique qui va venir au Québec, justement, pour le système. Et donc, je fais mon mieux pour trouver des ressources pour les partis qui appartiennent au fédéral.
Vous comptez nommer combien de juges au Québec sous peu?
Je peux pas vous dire exactement parce que c'est encore protégé par le processus, mais j'espère d'avoir...
Ben, je vous demande pas les noms, je veux juste savoir combien.
Non, je peux pas vous dire. Mais attendez, j'espère que ça va arriver.
OK. Là, vous allez me dire si on vous a bien compris. Est-ce que c'est vrai que vous pensez revoir la façon dont les cautions sont déterminées et qu'il y a un fardeau plus important qui va être accordé, enfin demandé à la personne justement qui se présente et qui va obtenir un cautionnement puis une remise en liberté?
C'est quelque chose que j'ai commencé à re-regarder avec les provinces depuis le mois de novembre l'an dernier. C'est compliqué. On a déjà des cas dans le système où le fardeau est renversé. Donc, on a ajouté, notre gouvernement a ajouté un fardeau renversé pour les cas de violence intime ou bien pour les armes à feu prohibées. Donc, ça existe déjà. Est-ce qu'on devrait en ajouter d'autres? Mais il y a aussi d'autres solutions où on pourrait travailler avec les provinces et les territoires, avec les forces policières, pour que le système actuel soit mieux appliqué. Donc, comment mieux gérer le système? Et nous sommes prêts à cette discussion. Je vais inviter mes homologues de venir à Ottawa au mois de mars. On a déjà commencé les préparations, justement pour regarder les possibilités.
OK. Dernière question concernant cette fois l'aide médicale à mourir. Il y a un rapport qui a été déposé à Ottawa cette semaine qui propose d'élargir notamment tout le volet de la santé mentale. Québec a déposé un projet de loi hier. D'abord, pour ce qui est des gens qui, et ils sont pas si nombreux que ça, là, mais quand même, qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont été traités, pour qui ça donne aucun résultat. Est-ce que vous allez permettre l'aide médicale à mourir pour ces cas?
Mais ce qu'on a fait, c'était déjà dans la loi de 2021. Et comme vous venez de dire, M. Arcan, vous avez tout à fait raison. Ce n'est qu'un tout petit nombre des troubles mentaux traités par un psychiatre pendant des années où il n'y a pas de où il n'y a pas de solution. Ça va arriver maintenant dans une année. Donc on va avec un projet de loi que je viens de déposer prolonger l'entrée en vigueur.
OK.
Et c'était à l'unanimité.
OK, mais
on va aussi regarder ce que Québec va faire, on va regarder ce que le comité parlementaire à Ottawa a recommandé, mais ça va arriver dans une heure parce que c'est déjà dans la loi.
OK, mais là, juste qu'on puisse bien comprendre, là, si c'est pas dans la loi québécoise puis que vous l'intégrez dans la loi canadienne, si j'habite au Québec, là, qui a raison, vous ou le gouvernement du Québec?
Les compétences sont différentes et donc ce qui se produira, le Québec, évidemment, a le pouvoir de ne pas appliquer la marge de manœuvre possible qu'on a fait avec les changements au droit pénal. Donc, le Québec peut décider de ne pas appliquer dans sa propre loi, okay, donner dans sa propre loi une loi québécoise, mais il pourrait être susceptible devant les tribunaux de le faire, mais ça, c'est une décision que le gouvernement du Québec doit prendre.
Parfait. Merci, M. Labétis.
Merci beaucoup.
Au revoir. David Lametti, le ministre fédéral de la Justice.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Maintenant, on apprend que la ville de Laval réclame plus de 9 millions à différents joueurs qui ont participé à de la fraude, à de la corruption, à de l'abus de confiance à l'époque du dynamique maire de Laval, Gilles Vaillancourt. En d'autres termes, on découvre qu'il y a plusieurs fling-flang qui étaient peut-être passés sous le radar. Vaillancourt étant inépuisable dans ce domaine-là, la commission Charbonneau nous avait montré à quel point il y avait tout un système de financement politique avec des notables, des avocats et tout ça, puis des entrepreneurs. Mais d'autres types de contrats ont aussi été attribués, dit la Ville, dans un contexte carrément de fraude puis d'abus. C'est pour ça qu'ils réclament 9 millions. Le maire de Laval, Stéphane Broyer, est avec nous. Monsieur Broyer, bonjour.
Bon matin, M. Arcan.
Bon, d'abord, comment vous avez découvert ça, là, qu'il y avait d'autres patentes à Vaillancourt qui traînaient?
En fait, nous, depuis déjà quelques années à la Ville, en fait, suite à la commission Charbonneau, on a mis en place une équipe d'avocats et d'enquêteurs dédiés à 100% à trouver des preuves sur la corruption, la collusion qu'il aurait pu avoir à Laval pour émettre des poursuites. Donc, on a une équipe là, qui travaille là-dessus depuis plusieurs années. D'ailleurs, dans les dernières années, on a récupéré 57 millions de dollars à ce jour, dont 7 millions l'année dernière. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle série d'accusations ou de poursuites qu'on lance pour aller au fond de l'affaire.
Et là, on parle de quel genre de scheme, là, mais quel genre de c'est quoi, c'est des ventes de terrain, des contrats, on parle de quoi?
Oui, donc à l'époque, la commission Charbonneau, on parlait beaucoup des contrats de construction de voiries, de rues, de trottoirs, d'ingénierie. Aujourd'hui, on s'attaque à ce qui est les transactions immobilières, donc des terrains qui auraient été vendus par la ville à rabais à des gens qui faisaient une passe d'argent par la suite. On parle aussi de la gestion des dépôts à neige, mais aussi de tous les individus qui gravitaient alentour de M. Vaillancourt et des principaux acteurs qui étaient des facilitateurs dans la stratégie de corruption-collusion. Donc, on vient poursuivre également ces gens-là.
OK. Là, on parle, entre autres, là, vous me corrigerez, mais d'ex-avocat notaire, là, Bertrand Gauthier, le frère de Gilles Vaillancourt, des gens comme ça, là.
Exactement.
OK. Est-ce que Vaillancourt, lui, pourrait être poursuivi encore?
Monsieur Vaillancourt, on a eu des poursuites. En fait, c'était parmi les premiers dossiers que notre équipe a traités. On est allé chercher environ 10 millions de dollars auprès de Monsieur Vaillancourt. Mais c'est certain que, puis je l'ai déjà dit dans le passé, là, moi, c'est sûr que si jamais il y a des preuves qui font surface, il y a des éléments qui nous permettraient de lancer d'autres poursuites pour aller chercher l'argent qui est dû au Lavallois, c'est certain qu'on va agir. Donc, j'exclus pas qu'il y en aurait d'autres si jamais on a des éléments qui nous donnent raison de poursuivre les démarches. Mais là, aujourd'hui, je vous dirais que ça touche pas M. Vaillancourt en tant que tel.
Question comme ça, est-ce qu'il reste encore de l'argent, par exemple en Suisse, de toutes ces années de corruption à Laval?
Ça, c'est une bonne question, j'aimerais bien savoir.
Parce qu'il y en a eu pendant une époque, là, mais on ne sait pas trop s'il en reste.
Oui. C'est sûr que dans les dossiers, pour pouvoir lancer des poursuites, ce qui est toujours la partie la difficile, c'est de monter les dossiers, accumuler les preuves. Il faut qu'on ait un dossier qui soit béton pour pouvoir se présenter devant un juge et gagner nos causes. Donc, c'est certain qu'il y aura peut-être toujours une zone d'ombre sur certains aspects. Mais comme je vous dis, moi, dès qu'on a des informations qui nous permettent d'enclencher des poursuites, on le fait.
M. Boyer, quand on y pense avec le recul, qu'un tel système impliquant autant de gens ait pu faire la pluie et le beau temps, puis passer la gratte, puis ramasser des millions pendant autant d'années, c'est presque incroyable.
Oui, puis c'est pour ça que, pour moi, c'est important de continuer d'agir. Ça fait déjà bientôt 10 ans depuis la commission Charbonneau, les années passent. C'était pas la première fois dans l'histoire du Québec qu'il y avait eu de la corruption. Il y avait eu d'autres commissions publiques dans les années 80. Dans toutes les sociétés, on a vu au fil des années des histoires de corruption, de collusion. Fait que pour moi, c'est important, même si les années passent, de maintenir un message, d'envoyer un signal fort qu'on va agir si on constate qu'il y a des irrégularités. Puis je pense que c'est un message que tous les gouvernements doivent maintenir dans le temps parce que sinon, il y a des gens qui vont se réessayer un jour. Donc pour moi, ça c'est important, au-delà des poursuites d'aujourd'hui, au-delà des sommes qu'on pourrait récupérer pour redonner au Lavallois, c'est de maintenir ce message-là pour s'assurer qu'il n'y ait plus personne qui s'essaie et qu'il n'y ait pas de nouveaux stratagèmes qui renaissent un jour.
M. Boyer, juste en terminant, on sait qu'aujourd'hui, il va y avoir la comparution du chauffeur là, qui a foncé sur la garderie. Il y a eu des funérailles hier. Il y a des funérailles aujourd'hui pour le deuxième enfant. Est-ce que vous savez comment le dossier évolue? Parce que la question demeure tout le temps. Là, on ne sait pas pourquoi il a fait ça.
Ben, c'est sûr, moi, je m'immisce pas dans les enquêtes. Je suis informé à différentes étapes, mais pour l'instant, on est toujours un peu au même point qui est de comprendre les motivations du suspect ou de ce qui s'est passé. Fait que non, j'ai rien de nouveau là, à vous dire aujourd'hui.
OK, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous,
au revoir.
Journée.
Stéphane Boyer est le maire de Laval.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
La nouvelle est tombée hier en fin de journée. Le groupe TVA qui a annoncé des coupures d'emplois, 240 emplois. En fait, c'est 140 emplois directement au groupe TVA, puis d'autres gens qui vont perdre leur travail dans différents secteurs de Québecor. Le président et chef de la direction de Québecor est avec nous, Pierre-Carl Péladeau. Monsieur Péladeau, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
D'abord, est-ce qu'on sait comment ça va se ventiler, dans quel secteur les pertes d'emplois vont se faire?
Ça va être dans tous les secteurs, que ce soit à Montréal, à Québec, dans les régions pour TVA, que ce soit donc l'information, que ce soit la production. Il y a également, vous l'avez mentionné, donc d'autres collaborateurs et collaboratrices donc, dans d'autres activités, dont notamment le numérique et également aussi donc les ventes, on appelle ça Québécois ventes médias. Donc ça va couvrir donc l'ensemble de nos activités, ainsi que d'autres sociétés comme notamment Mels, les magazines. Donc c'est vraiment across the board, excusez-moi.
Mais il n'y a pas de fermeture, par exemple, d'un magazine. Vous dites c'est terminé. Il n'y a pas de fermeture complète ou de vente d'actifs.
Exact. Il n'y a rien de ça. Il n'y a pas de vente d'actifs. Il n'y a pas de fermeture.
OK. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision-là?
Ben, malheureusement, c'est donc votre collaborateur Pierre McSween, puis vous en avez également aussi souvent parlé, donc je dirais que c'est comme un faisceau d'éléments qui sont systémiques. Vous en parlez fréquemment sur les ondes, que ce soit Netflix, Disney Plus et compagnie, donc la multiplication des multinationales américaines. Je me souviens d'ailleurs à ce micro avec la ministre du patrimoine à l'époque, en ce qui concerne la taxation, juste l'application de la taxe de vente sur Netflix, ça a fait un gros tam-tam. Alors, c'est un problème qui existe depuis longtemps. Et donc, ça s'accumule. C'est pas parce qu'on ne le règle pas qu'il disparaît. Et là, on est en plein dedans. Est-ce que la pandémie, d'une certaine façon, a créé un environnement, entre guillemets, un peu artificiel, certainement, mais donc là, on est revenu, je dirais, dans le sens des réalités. Okay.
Mais dans les faits, là, les gens regardent moins la télé conventionnelle.
Clairement.
Ceux qui la regardent, ce sont les gens plus vieux, moins payants pour les agences et pour vous.
Exactement.
OK. Ça veut dire que, est-ce que vous considérez que la télé conventionnelle va finir par disparaître?
Vous avez déjà également aussi posé la question concernant est-ce que les journaux sur papier vont disparaître. C'est sûr qu'il y a une évolution majeure donc de l'ensemble des médias conventionnels. Nous sommes dans cette activité. Est-ce que nous essayons de les faire évoluer sur d'autres supports? Certainement. Et du streaming, entre guillemets, donc de la vidéo sur demande par abonnement, on en fait quand même depuis de nombreuses années. Vous le mentionnez de temps à autre. Le Club Illico, ça fait quand même plus de 10 ans là, qu'on en fait de la production. On a lancé un nouveau site qui s'appelle Vrai. Non, nous les avons fait évoluer, nos plateformes. Par contre, dans un environnement où là, nous sommes confrontés à des multinationales, parce que précédemment, ça prenait une licence, hein, notamment que ce soit en radio ou que ce soit en télévision, il n'y en a plus de licence. Le concept de licence en tant que tel est devenu désuet ou obsolète parce qu'on est capable de rentrer au Canada, entre guillemets, dans ce périmètre-là, sans avoir l'autorisation du CRTC, sans avoir l'autorisation de qui que ce soit. Au contraire, d'une certaine façon, le marché canadien, des fois, c'est un marché accessoire pour les multinationales.
Mais là, vous dites dans le communiqué d'hier, là, si on prend les éléments, le CRTC fait pas sa job face à ces joueurs étrangers qui débarquent avec leur plateforme. Vous dites également, Radio-Canada, c'est de la concurrence déloyale. Ils sont subventionnés, ils veulent faire de la télé contre nous. Bref, offrir des produits qu'ils devraient pas faire. C'est pas dans leur mandat de faire ça. Puis vous dites, Bell me donne pas l'argent, ma part normale pour l'exploitation de mes produits.
Oui. Ce sont des éléments, effectivement, donc qui font l'objet, je dirais, d'une nomenclature des problèmes auxquels nous sommes confrontés. C'est pas une question d'accusation, c'est une question de constatation. On constate que Bell est en conflit d'intérêts en permanence, puisqu'elle a elle-même ses chaînes, et elle préfère, évidemment, donc les privilégier au détriment de ses chaînes concurrentes. Et Bell, c'est un distributeur important au Québec. On le mentionne depuis de nombreuses années. Tous les autres distributeurs, que ce soit Cogeco, où il y en a d'autres également aussi au Québec, nous donne des redevances à la hauteur de ce qu'on considère être la juste valeur marchande. Pourquoi Bell ne le fait pas alors que, effectivement, son empreinte est extrêmement importante? C'est la raison pour laquelle on est encore devant le CRTC, on est encore en arbitrage pour justement faire en sorte de les convaincre que ça nous prend donc une rémunération adéquate pour continuer à faire en sorte d'investir dans notre contenu. Puis à cet égard-là, je pense que clairement, on a fait la démonstration hors de tout doute que l'investissement en matière donc de contenu québécois, c'est une chose, c'est comme ça fait partie de notre ADN, puis on entend bien okay. le
Mais
poursuivre.
L'environnement. Maintenant, on va regarder les décisions que vous avez prises. TVA Sport, avez-vous déjà fait une pièce de profit avec ça?
Non, au contraire.
Vous avez perdu combien avec ça?
Le total de l'investissement depuis que nous avons lancé TVA Sport est de 200 millions de dollars.
Que vous avez perdu donc?
Que nous avons investi, on peut le dire qu'on a perdu.
En tout cas, il y a pas, ça n'a pas rapporté.
Aussi, c'est comme le thé à moitié plein ou à moitié ouais. vide. Là. Nous, on préfère le voir du côté à moitié plein. Mais là aussi, on a toujours été en retard à l'égard de la redevance qui nous est due, selon nous, et qu'on réclame encore une fois au CRTC parce que c'est lui l'arbitre qui détermine la redevance. Clairement, on peut pas penser autre chose que Bell va privilégier RDS. Et c'est tellement vrai qu'il y a des décisions qui ont été rendues par le CRTC accusant ou les condamnant, entre guillemets, donc de préférence indue. Ils prennent RDS et ils le mettent dans leur meilleur forfait de distribution. C'est documenté, ce sont des décisions qui existent.
Avez-vous pensé à fermer TVA Sport en disant là, ça va mal partout, là, on va donner un grand coup?
nous sommes en arbitrage. Je pense que aujourd'hui, nous sommes, je dirais, à la lisière, excusez-moi l'expression, là, parce que ça va être le dernier arbitrage avant le renouvellement donc du contrat que nous avons avec la Ligue nationale, et ça va être effectivement déterminant.
Parce que c'est un contrat qui coûte cher.
C'est extrêmement cher, oui.
Qui va peut-être coûter encore plus cher.
C'est fort possible.
Est-ce que ça va être trop cher?
Ben, on verra bien, mais vous avez vu également aussi, antérieurement, là, avec les multinationales de streaming, de Vidéotron sur VSD, de vidéos sur demande par abonnement, nous avons perdu cette année le contrat de la MLS. Donc, Québécois et Vidéotron a toujours soutenu l'Impact et puis ensuite le CF pour le perdre, devinez à qui? À Apple TV. Nous avions pas cet environnement-là précédent. Et là, c'est multinational, et c'est plus vrai également aussi aux États-Unis. Antérieurement, on pouvait penser que la télévision allait garder un espèce de créneau de l'événement en direct. Donc, mais c'est plus vrai maintenant, puisque le football américain...
Là, je vous écoute, ça regarde pas bien pour TVA Sport, là.
Effectivement, donc, il y a un certain nombre de considérations qui ne militent pas dans la perspective donc d'une réussite en ce qui concerne TVA Sport.
L'autre aspect concerne le consommateur. Les gens, bon, historiquement, le câble, puis on regarde nos chaînes préférées. Arrivent les différentes applications, les différentes plateformes. Il y a une capacité de payer des gens, là. C'est-à-dire que je peux pas m'abonner à tout, j'ai pas le temps de tout voir. T'as Netflix, quand vous avez chez vous Illico, par exemple, puis là, vous avez vrai qu'il y a... Est-ce qu'il n'y a pas trop de plateformes disponibles pour les gens?
Oui, clairement, et c'est tellement vrai que dorénavant, donc l'habitude des consommateurs, c'est de s'abonner, se désabonner, ils font comme...
Ils tournent en rond, là.
Exactement. Donc, oui, vous ne pouvez pas être abonné à 6, 7, 8 services en ligne. Donc, vous allez choisir...
Mais pourquoi vous en faites plusieurs aussi? Est-ce que vous n'allez pas diluer votre produit?
Ben, c'est une stratégie qui va peut-être évoluer. Illico, je l'ai mentionné. Donc, au départ, on était quand même assez seul avec le club Illico. Maintenant, donc, c'est un marché qui est nettement plus occupé qu'au départ. Est-ce que on doit revoir notre stratégie clairement? Est-ce que Vrai et Illico vont vivre un à côté de l'autre ou vont fusionner? Ce sont des éléments sur lesquels nous réfléchissons en permanence. Là.
OK. Savoir
que Vrai, évidemment, est quand même un produit relativement récent. Ouais.
Les gens de l'industrie qui vous écoutent, là, est-ce qu'ils se disent il va y avoir moins d'argent, il va y avoir moins de production, moins de séries, moins de films, par exemple?
Si nous sommes pas en mesure de pouvoir les financer...
Mais l'an prochain, coupez-vous dans vos budgets de...
Les arbres?
Non, ça c'est vrai. Mais est-ce que vous coupez dans vos budgets pour l'an prochain d'investissement contenu?
Ça, je vais garder à cet égard-là. Donc, c'est une stratégie de commercialisation. Je vais la garder pour moi. Parce qu'en général, évidemment, nos concurrents nous écoutent. C'est pas l'intention, donc, de leur donner une longueur d'avance sur ce que nous avons l'intention de faire. Excusez-moi.
Non, je comprends, mais je pose des questions.
Oui, c'est normal.
Est-ce qu'il y a d'autres compressions qui pourraient venir dans le futur?
Nous ne sommes jamais certains de ce que nous réserve l'avenir. Est-ce que les éléments aujourd'hui sont favorables? Clairement, ils ne le sont pas. C'est la raison pour laquelle on a dû poser ces gestes. Et puis, tu sais, c'est très attristant. Il y a personne qui se réjouit de cette situation-là. Par contre, en même temps aussi, c'est pas arrivé de façon comme brusque là, ou récente. C'est comme un phénomène, c'est une tendance qui s'est établie depuis de nombreuses années. Et puis, je comprends que c'est peut-être pas sympathique, mais ça fait plusieurs années que je soulève le point. C'est sûr que c'est ma job de faire ça. C'est ma job de faire en sorte d'aller voir le législateur.
Si vous étiez encore en politique, vous n'auriez pas pu faire ça. Hey, le chef du PQ aurait congédié 240 personnes. Pas certain, moi.
Ouais, mais bon, je suis en fait...
Non, mais il l'a difficilement fait quand même, non?
Mais j'aurais pas certainement pu faire les deux, ça c'est clair.
Non, mais vous étiez le propriétaire pareil, vous auriez eu le même contexte. Vous auriez pas pu...
Je m'occupais pas de Québécois quand je faisais de la politique. Mais... Je m'en occupais pas du tout.
Mais c'était à vous quand même.
Je suis l'actionnaire majoritaire de Québécois. C'est une société publique, une cotée en bourse.
On peut-tu régler une chose, une fois pour toutes?
Ce que vous voulez, M. Arcand.
Les Nordiques, là, c'est fini. L'achat d'un club à Québec.
Voyez-vous, si nous avions la possibilité de réaliser donc l'implantation d'une équipe professionnelle à Québec pour TVA Sport, parce que c'était ça aussi l'objectif, c'était la raison qui nous a motivés à faire en sorte.
Mais là, depuis le temps, là, y croyez-vous encore ou c'est comme fini là?
Je ne sais pas qu'est-ce qui va se produire. Vous savez, à chaque année, il y a toujours des situations particulières qui se produisent. Cette année, c'est les Coyotes de l'Arizona. Je ne sais pas si l'annonce de l'amphithéâtre a été faite. On sait, pour l'instant, ils jouent dans un amphithéâtre de 5000 places. Est-ce qu'il va y avoir d'autres circonstances? Il n'y a rien qui nous empêche de penser que le dossier est clos à jamais, là.
Puis vous seriez prêt à acheter un club?
Nous persistons à dire qu'à Québec et qu'avec Québécois, nous avons tous les éléments nécessaires pour faire en sorte que les Nordiques ou une équipe de hockey professionnelle puisse réussir dans l'environnement qui est celui que nous connaissons.
M. Péladeau, merci d'être venu ce matin.
J'en prie.
Pierre-Carl Péladeau est le président et chef de la direction de Québécois.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Benoît Charrette est avec nous parce que hier on a appris aux États-Unis que Tesla devait procéder à un rappel de 360 000 véhicules et il semble que c'est en raison du logiciel de problème là avec le logiciel de conduite autonome. Bonjour Benoît.
Salut Paul.
Bon, c'est quoi le problème exactement qui a été décelé?
En fait, il faut distinguer parce que le autopilot qui vient avec tous les véhicules Tesla et pour à peu près 15 000 $ de plus, on peut se procurer un logiciel qui s'appelle le Full Self Driving, donc on appelle le FSD. Bon, c'est ce logiciel-là qui pose problème. En fait, on dit qu'il est trop permissif. Il permettrait, par exemple, en traversant une intersection, alors que l'intersection est à la croisée de chemin réservé, de passer tout droit. Il pourrait rentrer dans une intersection contrôlée par des panneaux d'arrêt sans faire de stop, s'engager dans une intersection pendant qu'il y a un feu rouge, sans déceler le feu rouge. Donc, on a comme ça, à travers tout le système, décelé quelques anomalies qui sont quand même importantes, là, parce qu'on s'entend. Tu rentres dans une lumière rouge, puis qu'il arrive d'autres autos, ça peut être problématique. En fait, ce qu'on va faire, c'est une mise à jour par voie aérienne, là, ce qu'on appelle les OTA en anglais. Pour le moment, c'est des véhicules américains qui ont été rappelés. Sauf que, bon, le full self-driving, c'est le même système des deux bords des frontières, là. Donc, logiquement, ça devrait aussi se retrouver dans les véhicules qui sont au Canada. Mais il n'y a pas à aller quelque part pour résoudre le problème. C'est une mise à jour hertzienne qui va se faire à peu près au mois d'avril. On n'a pas défini encore la date. Et le véhicule, en principe, devrait être moins permissif et mieux contrôler ses allées et venues, évidemment, quand il est en mode de conduite autonome.
Bon, parle-moi justement de ce mode de conduite autonome, là. Hier, je disais, là, l'idée, c'est pas de mettre en fonction le logiciel, puis de s'accoter, puis de lire un livre pendant que le véhicule avance, là.
Bon, et là, Paul, il y a deux discours chez Tesla. Quand on écoute Elon Musk parler de ce système-là, lui parle de ça comme si c'était effectivement quelque chose où on peut laisser l'auto faire à peu près tout ce qu'on veut et elle le fera. Et quand vous allez sur le site de Tesla, on dit clairement qu'il faut garder les yeux de la route, que c'est un système d'aide à la conduite autonome, mais que c'est pas un système qui va faire tout le travail tout seul. Et il y a malheureusement des gens qui ont pris les paroles d'Elon Musk au pied de la lettre. Et on a vu aux États-Unis des gens qui dormaient au volant du véhicule, qui étaient assis à l'arrière, comme tu dis, en train de lire un livre. On a vu des choses un peu invraisemblables. En fait, ce qu'il faudrait donner, parce qu'il faut bien comprendre que l'autopilot et même le système FSD qu'on achète, soit dit en passant, pour 15 000 $, c'est pas une affaire qui coûte pas cher, là. C'est quand même assez cher. Bon, ben, ces systèmes-là sont encore des systèmes de niveau 2. C'est-à-dire que, oui, il y a des aides à la conduite électronique, mais ce n'est pas un système qui va prendre une décision cruciale dans des moments où vous avez besoin de réagir en tant que pilote. Donc, il faut garder les yeux sur la route, il faut être attentif, le système va aider, mais contrairement à d'autres, comme des GM, les Mercedes ou d'autres, qui vous disent au bout de 15 ou 30 secondes de remettre vos mains sur le volant et de reprendre le contrôle, on le fait pas chez Tesla, fait que les gens ont l'impression que, on va laisser aller le véhicule, puis ça va se faire tout seul. Mais ces systèmes-là, là, existent pour certains véhicules prototypes expérimentaux. Mais dans les véhicules qu'on peut acheter, c'est un concessionnaire, là, il n'y a aucun système encore qui nous permet de laisser aller le véhicule tout seul.
Non, je voyais la directive. Regardez la route et laissez vos mains sur le volant. Et vos voilà, pieds pas toujours. Loin des pédales.
C'est oui, comme... De préférence. Oui.
Idéalement. Merci beaucoup, Benoît.
Salut, Paul.
Salut, Benoît Charrette. Le rédacteur en chef de l'annuel de l'automobile. Parce que c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'accidents, parce que les gens prenaient ça comme un chauffeur personnel. Ils disaient, bon, ben OK, Tesla se conduit tout seul. C'est pas aussi simple que ça.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.